DW. Le journal. Éric Topona.
DW, 17h en temps universel, 18h en Allemagne et au Tchad. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au menu de ce journal, la situation est redevenue normale au Tchad au lendemain d'une attaque du palais présidentiel de la capitale, d'une attaque dont les contours demeurent encore flous. Notre correspondant N'Djamena Blaise Daruston va nous faire le point de la situation dès le début de ce journal. Également dans l'actualité, la situation sécuritaire en RDC et la progression des rebelles du M23. Une situation d'insécurité qui traumatise les populations de cette partie du pays. Cela fait déjà 6 mois que les deux activistes guinéens Oumar Sylla alias Funike Menge et Mamadou Biloba ont été enlevés. Nous allons également donc revenir dans cette édition sur la tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise. Et puis aux États-Unis, de violents incendies ravagent la région de Los Angeles depuis plusieurs jours. Voilà pour le sommaire. D'abord, le bulletin d'information et ce sera avec Georges Ibrahim Tonkara.
Bonsoir à toutes et à tous. Le Liban a un nouveau président. Le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, âgé de 61 ans, a été élu président ce jeudi après avoir recueilli 99 des voix sur un total de 128 députés, mettant ainsi fin à une vacance de plus de 2 ans à la tête du pays. Aujourd'hui commence une nouvelle ère dans l'histoire du Liban, a notamment déclaré le nouveau président après avoir prêté serment au Parlement. Il s'est engagé à respecter l'accord de trêve avec Israël après la guerre meurtrière qui a opposé l'armée israélienne au Hezbollah pro-iranien. Le président Aoun s'est aussi adressé à l'Iran. Il a appelé au respect de la souveraineté du Liban. Nous avons une occasion historique d'entamer un dialogue sérieux avec l'État syrien dans le but d'aborder toutes les questions en suspens entre nous, en particulier la question du respect de la souveraineté et de l'indépendance des deux pays. Le contrôle des frontières dans les deux sens, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'un ou l'autre, le dossier des personnes disparues et la résolution de la question des personnes déplacées. Je m'engage à travailler pour un pays qui investit dans son armée pour contrôler les frontières et contribuer à leur consolidation au sud et à leur délimitation à l'est, au nord et à la mer. Les États-Unis, la France, le Qatar ou l'Iran ont tous salué l'élection de Joseph Aoun.
Le président ukrainien veut des troupes occidentales pour imposer la paix à la Russie.
Volodymyr Zelensky a estimé ce jeudi qu'un éventuel déploiement de troupes occidentales en Ukraine aiderait à forcer la Russie à la paix, assurant voir une période d'opportunité s'ouvrir avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Parmi les idées explorées par les chancelleries européennes et Washington figure celle du déploiement d'un contingent militaire en Ukraine pour assurer le maintien d'un hypothétique cessez-le-feu, cette hypothèse qui a en particulier été évoquée décembre dernier entre les dirigeants français Emmanuel Macron et polonais Donald Tusk, a été rejetée par la Russie qui l'a qualifiée de prématurée. Quant au secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, il a annoncé une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine d'un montant d'environ 500 millions de dollars. Une coalition internationale visant à fournir des drones à l'Ukraine, co-dirigée par le Royaume-Uni et la Lettonie, va pour sa part envoyer 30 000 nouveaux engins à Kiev, une annonce faite ce jeudi par le ministère britannique de la Défense.
Olaf Scholz, le chancelier allemand, ne veut pas de dépenses supplémentaires comme l'exige Donald Trump.
Le chancelier allemand a marqué son opposition à l'exigence de Donald Trump de voir les États membres de l'OTAN accroître leurs dépenses de défense à 5% du PIB, soulignant que cela représentait beaucoup d'argent pour le budget allemand. C'est beaucoup d'argent, dit Olaf Scholz. Je trouve préférable de se concentrer sur la voie que l'OTAN a convenu depuis longtemps, a également déclaré le chancelier allemand aux médias Focus Online, alors que les règles actuelles de l'OTAN prévoient que les membres consacrent au moins 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Des milliers de partisans du principal opposant mozambicain Venancio Mondlane ont envahi le centre de la capitale Maputo pour saluer son retour d'exil. Revendiquant toujours sa victoire aux élections du 9 octobre, l'opposant s'est dit prêt à négocier avec le Frelimo au pouvoir depuis 50 ans, après des mois de manifestations violentes. Les États-Unis ont démenti aujourd'hui des accusations selon lesquelles Washington participe à un projet, à un complot contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, dont l'investiture est prévue ce vendredi. Et puis les États-Unis toujours, Joe Biden a appelé ce jeudi à résister à la haine et aux abus de pouvoir pendant les funérailles nationales de l'ancien président Jimmy Carter, des funérailles auxquelles assistait le président élu républicain Donald Trump.
Voilà, Jimmy Carter qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 100 ans. Un record. Merci Georges Ibrahim Tonkara qui nous présentait le bulletin d'information. Il est 17h05 en temps universel, 18h05 à N'Djamena, Amdjaras et Mundu au Tchad.
DW.
La situation au Tchad est revenue précisément à N'Djamena, la capitale, au lendemain d'une mystérieuse attaque au motif encore flou, attaque du palais présidentiel. Selon le gouvernement tchadien, 18 assaillants et 2 militaires de la garde présidentielle ont été tués. La version officielle est contestée cependant par une partie de l'opposition. Max Kemkoy, par exemple, le porte-parole d'une coalition de l'opposition, évoquait ce matin un synopsis malheureux et un montage grossier orchestré par le pouvoir. Alors, le calme, on le disait, est revenu à N'Djamena. Les dispositifs de sécurité renforcés et les interdictions de circulation mises en place hier soir aux abords du palais présidentiel, tous ces obstacles ont été levés. Et on va sans tarder nous rendre à N'Djamena pour y retrouver notre correspondant sur place, Blaise Daruston. Blaise, dites-nous quels sont les derniers développements, les dernières informations en votre possession au sujet des événements d'hier soir.
Jusque-là, il n'y a pas d'éléments d'information complémentaires côté gouvernement tchadien sur cette présumée attaque du palais présidentiel par des jeunes assaillants, comme l'avait affirmé hier le porte-parole du gouvernement tchadien Abderrahmane Koulamala, le procureur de la République Omar Mahamat Kedlaï, au cours d'un point de presse ce jeudi à midi, n'a fait que reprendre les propos du ministre Abderrahmane Koulamala qui disait que c'était un groupe d'individus mal intentionnés composé de 24 personnes qui auraient simulé une panne de leur véhicule devant la présidence de la République. Public a profité pour attaquer les éléments de la garde présidentielle en faction. Sauf une petite contradiction dans les bilans. Alors que dans son bilan hier, le porte-parole du gouvernement tchadien, Koulamala, disait que c'est un militaire qui a été tué et deux autres blessés au cours de l'attaque. Le procureur de la République parle lui aujourd'hui de 2 militaires tués et de 5 autres blessés. Mais d'autres sources parlent plutôt d'une bavure de l'armée, notamment de la garde présidentielle. Selon ces sources, dans le véhicule qui a connu une panne se trouveraient plutôt des jeunes maçons et menuisiers, en tout cas des ouvriers qui revenaient du chantier et qu'ils étaient effectivement munis de leurs outils de travail présentés par les autorités comme des armes blanches. L'endroit étant interdit de stationnement, ces ouvriers auraient voulu, selon ces sources, descendre pour traverser. C'est à ce moment que la garde présidentielle, qui a trouvé suspect le mouvement, aurait ouvert le feu sur eux, mettant en débandade ces jeunes suivis d'une course-poursuite. Mais ce sont des informations non confirmées par des sources officielles. Pour le gouvernement tchadien, il s'agit bel et bien d'une attaque orchestrée.
Alors, Blaise Daruston, qu'en pensent les Tchadiens justement par rapport à ces événements, aux événements d'hier soir?
En tout cas, cette situation suscite de nombreuses réactions dans les rues de N'Djamena. Je vous laisse écouter quelques citoyens.
Tout le monde sait qu'on ne peut en aucun cas attaquer une présidence de la République avec les machettes et le couteau. On dit que ce sont des jeunes issus des quartiers du Sud. Ça veut dire qu'on cherche à peindre en noir un parti politique, un chef d'un parti politique. Je souhaite taire le nom. La vérité, tôt ou tard, ça jaillira. Mais ce n'est pas une bonne communication politique.
Même un fou armé de couteau ne peut pas attaquer l'armée. Que le gouvernement dise la vérité.
L'incident qui s'est passé hier devant la présidence de la République, nous pensons que c'est un incident très malheureux qui ne devrait pas y arriver. Nous demandons au gouvernement de faire toute la lumière possible pour que justice soit rendue pour les victimes.
Ce qui s'était passé devant la présidence hier, c'est vraiment lamentable. Regardons les images là. Est-ce que réellement c'est des malfaiteurs? On n'y croit pas. Qu'on nous sort vraiment les whisky ou bien tout ce qu'on a trouvé dans leur poche. On nous a parlé des machettes et autres là. Qu'on nous sort tout ce que ces jeunes-là avaient dans leur poche et qu'on nous clarifie vraiment cette situation.
Voilà la réaction de quelques Tchadiens recueillis par Blaise Daruston, notre correspondant à N'Djamena. Et il n'y a pas qu'au Tchad que les événements d'hier soir ont mobilisé l'attention. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux également à suivre et commenter cette actualité. Wendy Bachi a parcouru les différents commentaires et Wendy nous en livre un condensé.
La plupart des commentaires récoltés proviennent de notre page Facebook. Latif, par exemple, depuis Lomé au Togo, se demande s'il s'agit d'un acte isolé ou d'une tentative désespérée de déstabilisation. Depuis les Comores, d'où il commente, Mohamed estime que pour veiller à sa sécurité, l'AES reste une alternative pour le Tchad. Abdoul, depuis Conakry, en Guinée, suggère au pouvoir en place au Tchad d'organiser des élections libres et transparentes et de rejoindre leur caserne. Thiam, qui commente depuis Nouakchott, en Mauritanie, ironise sur le fait que souvent, quand les autorités disent que la situation est sous contrôle, cela est bien loin d'être vrai sur le terrain et ça dégénère la plupart du temps. Kofi, au Togo, pense qu'il s'agit d'une dictature en quête de conversion et que des innocents ont été piégés et éliminés. À Kaya, au Burkina Faso, Chérubin se demande comment des terroristes ont pu atteindre le palais. Il pense que le président français Emmanuel Macron pourrait avoir raison sur certains points de son discours. L'internaute fait ici référence aux récents propos du président français lors de la conférence annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs. Emmanuel Macron a défendu l'intervention militaire française au Sahel. Il a déploré également l'ingratitude des dirigeants africains.
Wendy Bachi, et voilà ce que l'on peut dire à ce stade au sujet des événements d'hier soir au Tchad, événements qu'on va bien évidemment continuer d'observer et de suivre. Vous écoutez le journal du soir, 17h11 en temps universel.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Le président rwandais Paul Kagame s'est exprimé cet après-midi sur la crise sécuritaire qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la mi-décembre, la rébellion du M23 que Kigali est accusée de soutenir a intensifié ses attaques en occupant des territoires dans l'est de la RDC. Une offensive que les forces armées congolaises essaient de contenir. Lors de sa conférence de presse de tout à l'heure, Paul Kagame a laissé entendre que les récents pourparlers entre Kigali et Kinshasa pour la paix ne s'attaque pas aux causes profondes du conflit. Paul Kagame a aussi affirmé que le M23 venait d'Ouganda et non pas du Rwanda. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration de Paul Kagame.
J'ai proposé en 2019 une collaboration à l'actuel gouvernement pour lutter contre les FDLR. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont autorisé l'Ouganda à envoyer des troupes pour combattre les ADF. Ils ont autorisé le Burundi à envoyer des troupes pour combattre je ne sais quel groupe. Mais quand il s'agit du Rwanda, ils refusent. Qu'est-ce que cela signifie ? Ils refusent parce que, soit de leur propre gré ou sur conseil d'un tiers, ils ne veulent en réalité pas que le problème avec les FDLR soit résolu. C'est comme cela que le problème du M23 a débuté. Certains combattants du M23 ont pu être recrutés ailleurs, mais les principaux chefs de ce groupe viennent de l'Ouganda. Ils ne viennent pas du Rwanda.
Voilà, c'était le président rwandais Paul Kagame au cours de la conférence de presse qu'il a animée cet après-midi. Et l'extrait a été proposé et doublé par Fréjus Kenom. Toujours en RDC, les rebelles du M23, soutenus donc par le Rwanda, poursuivent leur expansion territoriale dans l'est de la RDC. La cité de Masisi est repassée, Masisi Centre, est repassée sous occupation de ces rebelles depuis la matinée de ce jeudi 9 janvier à l'issue des affrontements qui ont opposé cette rébellion au FARDC et les Wazalendo. Les militaires congolais ont donc passé la nuit d'hier à Masisi Centre d'où ils avaient délogé les rebelles du M23 qui occupaient toujours les environs selon plusieurs sources locales et selon un rapport d'experts de l'ONU publié hier, les rebelles du M23 élargissent le recrutement de combattants combattants et de cadres pour administrer les territoires conquis. Depuis plusieurs années, les forces armées de la RDC combattent donc des groupes armés locaux et étrangers particulièrement actifs dans l'Est du pays. Ces violences répétées laissent des séquelles non seulement parmi les populations civiles mais aussi au sein des militaires déployés sur les différents fronts. Beaucoup d'entre eux souffrent de troubles psychologiques et de symptômes de stress post-traumatique, mais leur prise en charge reste largement insuffisante. À Beni, Pascal Muhindo Mapenzi.
Justin, un an d'après, jeune soldat de FARDC a entamé sa carrière militaire en 2014 à Kinshasa. Depuis 2017, il est affecté au Nord Kivu. Aux côtés de ses camarades d'armes, il a été déployé sur plusieurs fronts, notamment contre la rébellion du M23. Aujourd'hui, en réponse médicale à Beni, il montre des signes évidents de stress post-traumatique.
Le simple fait de rester en permanence sous le coup de balle et le bombardement entraîne une dégradation progressive de l'état psychique. On est constamment en situation de stress et petit à petit, on peut perdre le contrôle de soi. Certains d'entre nous développent de la peur, de la névrosité, de la brutalité ou une colère excessive. Cela conduit parfois au meurtre, au suicide ou à des comportements antisociaux. Et malheureusement, nous n'avons pas accès à des psychologues pour nous aider à comprendre ce qui nous arrive.
Comme Justin, de nombreux soldats reconnaissent n'avoir jamais eu accès à un psychologue au cours de leur carrière. Sous anonymat, un autre militaire rencontré à Beni plaide pour une meilleure prise en charge psychologique des soldats. Julie Mouissa, psychologue basée à Beni, explique que le stress prolongé et les traumatismes vécus sur le champ de bataille peuvent pousser certains militaires à adopter des comportements violents et irréfléchis.
Normalement, les soldats devraient être accompagnés psychologiquement avant d'aller au champ de bataille. Et après les opérations, on devrait former un camping où un psychologue devrait venir parce que de là, ils reviennent avec des réalités du champ de bataille. Ils ont vu leurs frères tomber sur les champs de bataille. Mettre en place un programme d'accompagner les militaires dans leur retour à la maison. Aussi, par exemple, proposer la mise en place des activités de détente.
Selon une source militaire, plusieurs unités des FARDC manquent de structures adaptées pour la prise en charge des soldats souffrant de troubles psychologiques. En attendant la mise en place des programmes de soutien adéquats, des incidents impliquant des membres du FARDC continuent de se multiplier dans des zones de combat, aggravant une situation déjà préoccupante. Pascal Mouindo Mapenzi a béni pour la Deutsche Welle.
En Guinée, ce 9 janvier 2025 marque les 6 mois de la disparition de 2 activistes, à savoir Oumar Sylla alias Fonike Mengue et de Mamadou Biloba. Ils sont tous deux activistes et membres influents du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Depuis leur enlèvement à leur domicile, au domicile précisément de Fonike Mengue, dans la nuit du 9 juillet 2024 par des hommes cagoulés, il n'y a plus aucun signe de vie. Je vous propose d'écouter l'avocate guinéenne, maître Ali Matou Camara. Elle est l'avocate de Fonike Mengue et de Mamadou Biloba.
C'est légitime qu'aujourd'hui les parents se posent des questions sur est-ce qu'ils sont encore de ce monde, est-ce qu'ils sont vivants, parce que jusqu'aujourd'hui leur sort n'est pas élucidé. Donc c'est quand même assez légitime que leurs proches se posent des questions sur leur sort.
Les autorités guinéennes, y compris le procureur de la République, continuent de nier leur arrestation. Ces deux activistes ne sont toujours pas vus. Rappelez-nous dans quelles conditions ils ont disparu.
Ils ont disparu il y a 6 mois, pendant que le FNDC était en train de préparer des nouvelles manifestations qui, pour soutenir les médias qui ont été illégalement fermés. C'est à ce moment-là que, un 7 juillet, vers 22h, je crois, que des hommes ont fait irruption au domicile de M. Fonike Mengue, l'ont brutalement arrêté. Et lui et M. Mamadou Biloba les ont conduits de force à une destination inconnue. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils étaient en compagnie de M. Mohamed Cissé, qui, voulant protester contre leur séquestration, a également fait l'objet de séquestration et qu'il a été libéré quelques jours après.
Alors, maître, pour finir, que peut-on retenir de la situation des droits de l'homme en Guinée en cette période de transition ?
On peut retenir que la situation des droits de l'homme a connu des moments d'espoir, où on a eu l'organisation du procès du 28 septembre. Même si le signal n'était pas bon à l'époque, nous estimions quand même que c'était une lueur d'espoir de voir l'organisation de ce procès. On peut déjà, sur le plan chronologique, dire que voilà, septembre 2022, un moment d'espoir, mais juillet 2024, un moment sombre. Et je pense qu'on continue encore à tomber dans les mêmes travers et que voilà, nous n'avons aucune garantie de non-répétition.
Voilà, c'était Maître Halimatou Camara, avocate de Founiki Mengi et de Mamadou Biloba, deux activistes guinéens qui ont été enlevés depuis exactement 6 mois. Et ces propos ont été recueillis par notre correspondant en Guinée, Abdoulaye Sadio Diallo. Tous les projecteurs sont braqués depuis ce jeudi matin sur le Bénin. Le pays célèbre en effet la deuxième édition des Vodun Days, l'emblématique festival annuel qui met en lumière le riche patrimoine culturel et spirituel du pays. L'événement devenu un pèlerinage culturel draine chaque année des touristes de tous les continents et il se déroule à Ouida. Ouida, ville historique considérée comme le berceau du culte vaudou. Rodrigue Guézodié.
Porte du non-retour, place symbolique au bord de l'océan Atlantique où se dérouleront plusieurs manifestations de cette deuxième édition des Vodou Days. Ici se dresse majestueuse l'arène de Ouida, un édifice de plusieurs compartiments qui va accueillir désormais toutes sortes de spectacles. Mais au cœur de la cité sont déjà lancées les animations des places et des couvents, ainsi que de nombreuses activités qui captivent les milliers de touristes ayant pris d'assaut la ville de Ouida. La particularité cette année, c'est que les temples et couvents seront réellement ouverts et accessibles aux pèlerins. Pour Akpo Komla Amanibo, dignitaire vaudou, cela aura l'avantage de déconstruire les clichés négatifs qui collent à cette culture.
C'est avec le vaudou que nos aïeux faisaient tout. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Si quelque chose arrive à quelqu'un, on consulte le phare, on dit « Ah, c'est ce vaudou-là qu'on doit aller voir, que la personne serait guérie, la personne guérie. » Il n'y a aucun mal dans le vaudou. Même il y a parmi les vaudous qui n'aiment pas l'injustice.
C'est justement pour cela que le programme des 112 heures du festival a également prévu, en dehors des manifestations culturelles, des séances de présentation de la théologie du vaudou. Kakpo Maouyon est le président du comité des rites.
Le vaudou étant une philosophie et une religion, il faut que l'on puisse expliquer la théologie qui génère le vaudou.
Et c'est logiquement que le président Patrice Talon a décidé de prendre la chose à bras-le-corps et de faire de cette richesse culturelle et cultuelle un important outil de rayonnement du Bénin à l'extérieur.
Nous avons dit que ce serait bien de reprendre corps dans notre propre identité, de révéler d'abord à nous-mêmes les valeurs du vaudou, l'harmonie que le vaudou requiert et instaure entre les hommes, la nature et le Dieu créateur, sans compromettre la foi des uns et des autres.
Les Vodou Days ne sont pas seulement une fête, mais une véritable immersion dans l'histoire et les traditions du Bénin. Ce jeudi et ce vendredi sont fériés pour permettre à tous les Béninois de se joindre aux étrangers pour découvrir et valoriser les rites vaudou et leur richesse culturelle. Rodrigue Guézodié à Ouida pour la Deutsche Welle.
DW. Information en bref, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré ce jeudi être désireux de continuer à servir son pays tout en assurant ne pas avoir encore pris de décision au sujet de sa candidature à un quatrième mandat à la présidentielle prévue en octobre prochain. Son premier voyage diplomatique de l'année conduit le chef de la diplomatie chinoise en Afrique. C'est désormais une tradition depuis 35 ans. Le ministre Wang Yi se rendait dès cette semaine en Namibie, au Congo, au Tchad et au Nigeria. Sandrine Blanchard, ces étapes n'ont pas été choisies au hasard.
Ce nouveau voyage du ministre chinois des Affaires étrangères symbolise l'importance diplomatique qu'accorde la Chine à l'Afrique, importance diplomatique et commerciale. En comparaison, Joe Biden a attendu la fin de son mandat pour se rendre sur le continent. Et malgré la tournée africaine d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, début 2024, l'analyste nigérian Ovikwe Egegu note une différence de taille entre ces deux politiques.
L'un des partenaires se rend sur place quand il a le temps, tandis que l'autre en fait une tradition. Il ne s'agit pas seulement de symboles, mais aussi de substances, car c'est ce qui fait prospérer la relation.
L'un des intérêts politiques de l'Afrique pour la Chine, c'est aussi sa cinquantaine de voix aux Nations Unies, un soutien potentiel important. Alors que l'économie chinoise ralentit, les pays africains offrent de nouveaux débouchés aux entreprises d'infrastructures d'État chinoises qui ont du mal à trouver des projets en Chine, où les autorités locales endettées mettent un frein aux dépenses. Pour augmenter la demande en produits chinois en Afrique, la Chine entend notamment stimuler l'industrialisation du continent africain, ce qui crée des emplois et du pouvoir d'achat. Autre volet important, la sécurité. Wang Yi se rend au Tchad, qui a résilié son accord militaire avec la France au mois de décembre. Certains estiment que la Chine pourrait en profiter pour se positionner comme un partenaire fiable et stable pour les nouvelles juntes militaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Christiane Géraud-Nema, chercheur au China Global Project, en doute.
China doesn't have that habit of like...
La Chine n'a pas l'habitude d'ouvrir des bases militaires dans des pays comme le Tchad, mais nous allons certainement voir plus de livraisons militaires dans les pays comme le Mali et le Burkina Faso, des pays qui cherchent de nouveaux partenaires en matière de sécurité, en plus de la Russie. Les exportations militaires chinoises sont plus faciles et moins chères.
Pour l'analyste Ovigwe Egegu, enfin, le défi pour la Chine dans les pays du Sahel consistera à établir des relations triangulaires en incluant leur allié commun, la Russie, qui offre une complémentarité plutôt qu'une concurrence.
Kai Niebe et Sandrine Blanchard. Aux États-Unis, de violents incendies ravagent la région de Los Angeles depuis plusieurs jours. De telles scènes paraissent exceptionnelles en plein hiver, Kosivi Tchassou.
Près de 1500 bâtiments ont été réduits en cendres, contraignant plus de 100 000 habitants de la métropole américaine à fuir devant les flammes. Ces feux d'une rapidité fulgurante ravagent des quartiers huppés comme Pacific Palisades, réputés pour leurs villas luxueuses. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a souligné l'ampleur de la situation en parlant de vents soufflant jusqu'à 160 km/h, des rafales dignes d'un ouragan combinées à une sécheresse extrême. Les incendies ont éclaté au matin du mardi ont déjà fait 5 morts. L'évocation de ces scènes tragiques par les habitants témoigne de la violence de ces flammes. Les flammes ont englouti nos rêves, a confié William Gonzalez, un résident désespéré de la région. Les conditions climatiques de cet hiver à Los Angeles ne laissent place à aucun doute. La sécheresse, la chaleur et les vents violents sont une combinaison fatale pour la propagation des incendies. Et la région n'a pas connu depuis près de 10 mois un phénomène qui accentue le risque d'incendie. En 2015, la Californie avait déjà connu une sécheresse historique et la situation n'a cessé de se dégrader au fil des années avec des périodes de plus en plus sèches en hiver. L'absence de précipitations sur plusieurs mois a asséché la végétation, transformant les herbes et les arbres en matériaux hautement inflammables. Ces conditions créent un environnement idéal pour les incendies qui se propagent avec une grande rapidité, alimentés par des vents puissants transportant des braises sur des kilomètres. Face aux effets du dérèglement climatique, la Californie apparaît de plus en plus exposée au risque d'incendie. Selon Crystal Dahl, vice-président de l'organisation scientifique Climate Central, l'augmentation de la température, notamment au début de cet hiver, avec des températures avoisinant les 20 degrés Celsius en journée, joue un rôle crucial dans l'intensification des incendies.
DW. Le sport. Fiat Ndaira Guidje.
En football, le dernier match des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne oppose ce soir le Real Madrid à Majorque. Un match qui s'annonce intéressant face à une équipe de Majorque en forme cette saison. Fiat Ndaira Guidje.
Le Real Madrid est certes leader au classement devant les grandes équipes comme l'Atlético Madrid ou encore le FC Barcelone. Mais ce soir, le club merengue, champion d'Espagne en titre, s'attend à une équipe de Majorque capable de lui causer des difficultés. C'est ce qu'estime l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Nous connaissons très bien l'adversaire et il nous connaît également très bien. Ce sera un match compétitif. Notre premier match de championnat contre Majorque a été très dur pour nous. C'est une équipe avec de bons éléments, capable certainement de se battre, notamment pour ce match contre nous. Il faut rappeler justement que Mallorca avait tenu en échec le Real Madrid un but partout en août dernier lors de la première journée du championnat espagnol. Selon l'entraîneur de Mallorca, le Real Madrid est un adversaire difficile à affronter compte tenu de son expérience. Le club est habitué aux grandes compétitions, mais Ragoba Arrasate se veut optimiste. Pour le Real Madrid, disputer la finale et la gagner est probablement une obligation. Mais pour nous, être en finale est un défi, à l'exception bien sûr de la Coupe du Roi qu'on a gagnée, car c'est historique, c'est quelque chose d'unique pour nous. Le vainqueur de cette rencontre entre le Real Madrid et Mallorca fera face au FC Barcelone en finale de cette Super Coupe d'Espagne dimanche, toujours au stade King Abdullah Sports City de Jeddah en Arabie Saoudite.
Voilà, c'était l'actualité sportive avec Fiacre Ndaïra Guidje. C'est avec l'actualité sportive que s'achève cette première partie consacrée à l'actualité. Place à la seconde partie consacrée au magazine.